Bonjour. Toujours un plaisir de passer un dimanche matin à la rue Sonnera. Notre texte ce matin sera dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17. La question posée, vous la connaissez, je pense, c'est « Qui est Dieu pour toi ?» Donc nous allons, avec Jean 17, voir quelques réponses sans doute de plus que ce que vous avez déjà entendu. Donc, qui est Dieu pour toi? Dans Jean 17, je vais vous faire la lecture en deux fois. Et je commence donc par, à partir du premier verset, je vais vous lire la moitié du chapitre. Jean 17. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Mon Père, l'heure est venue. Fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revêts-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les en ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés en ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'Écriture. À présent, je retourne auprès de toi, et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. On s'arrêtera là pour l'instant, je vous lirai la suite dans quelques minutes. Qui est Dieu pour toi? J'aimerais regarder avec vous ce matin ce Père que Jésus prie. Est-ce que Dieu est pour moi ce Père que Jésus prie? C'est un chapitre assez extraordinaire. C'est un chapitre qui nous fait entrer dans l'intimité entre Jésus, le Fils de Dieu, et son Père. Et j'ai un peu le sentiment que Moïse a dû avoir devant le buisson ardent. J'ai un peu envie d'enlever mes chaussures. C'est entrer dans le Saint des Saints que d'entendre Jésus parler directement au Père. Ce texte est organisé en deux grands volets. Je vous ai lu le premier volet. C'est d'abord une prière bilan, on pourrait dire. Il parle de ce qu'il a accompli, de tout ce qui s'est fait à travers son œuvre sur la terre. Donc les versets 1 à 13, et c'est suivi par une prière que j'appellerai prospective. Il va parler de la suite, de ce qui va se passer quand il aura été glorifié. Donc on pourrait dire, pour simplifier, le premier volet c'est « Je te prie pour eux ». Donc il parle des 11 qui sont là, avec lui, dans la chambre haute. On est à quelques heures de son arrestation. Et puis deuxième volet, ce n'est pas pour eux seulement que je te prie. Je te prie pour eux, et puis ce n'est pas pour eux seulement que je te prie. Et Dieu apparaît ici, tour à tour, sous quatre aspects que je vais regarder avec vous ce matin, brièvement. Dieu, d'abord, est révélé donc à travers la prière comme celui qui sauve, celui qui a conçu le plan de salut. Ensuite, comme celui qui garde, ça on a déjà touché un petit peu à cette question dans le culte, hein. Dieu est celui qui garde. Troisième chose qui ressort de ce texte de Jean 17, c'est que Dieu est celui qui consacre, hein, qui distingue du reste des hommes, hein, ceux qu'il donne à Jésus. Et pour terminer, on verra rapidement que Dieu est aussi celui qui unit. Donc ce sont des choses de base, mais pourtant ce sont les bases de notre foi et les bases de notre vie. Donc essayons de redécouvrir ensemble ce matin qui est ce Père que Jésus prie et tout ce qu'il est et fait pour nous. Je commence donc par le Père qui sauve. Jésus prie. Deux fois, il demande à être glorifié. Mais ce qu'on comprend souvent, d'ailleurs, quand on, si vous avez lu des choses sur Jean 17, on comprend souvent ce début de Jean 17 comme une prière de Jésus pour lui-même. C'est en fait une prière pour que se réalise le plan de Dieu pour sauver les hommes. Quand Jésus demande à être glorifié, vous comprenez qu'il demande d'abord à être crucifié. Il ne faut pas l'oublier. Quand il demande à être glorifié, il demande à passer par là où il doit passer pour que nous soyons rachetés de la mort. Alors, il demande à être crucifié et ressuscité. On est d'accord. Mais ça passe d'abord par la croix. Donc, Jésus demande à aller à la croix pour nous. Glorifie ton Fils. Et le salut que le Fils glorifié donnera ensuite à tous ceux que le Père lui a donné est désigné dans le texte par cette expression « la vie éternelle ». Alors la vie éternelle, vous en avez entendu parler depuis toujours, enfin depuis que vous êtes chrétien, même avant. C'est une expression qu'on connaît tellement bien qu'on n'y réfléchit plus souvent. Je trouve que la définition que Jésus donne de la vie éternelle dans Jean 17 est quand même étonnante. Hein. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui qui tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle consiste à connaître. Et le Seigneur, je dirais, prend ici le contre-pied de bien des idées reçues. D'abord, il nous dit, la vie éternelle consiste. Il n'a pas dit, la vie éternelle consistera un jour à vivre au ciel, dans la gloire. La vie éternelle consiste à te connaître. C'est important de nous rappeler que la vie éternelle n'est pas simplement une carotte pour faire avancer les ânes que nous sommes. Ce n'est pas une récompense pour enfants sages qui sera distribuée un jour dans l'au-delà. C'est quelque chose d'actuel. Jésus apporte à ceux qui croient une nouvelle qualité de vie. Dès maintenant! Si Jésus ne nous a pas apporté une nouvelle qualité de vie, il y a quelque chose qui cloche. Quand on a cru, Jésus a commencé une œuvre qui change la qualité de notre vie. Ensuite, on pourrait dire aussi, évidemment, si on prend cette définition, la vie éternelle ne consiste pas à suivre une liste interminable de règles. La vie éternelle ne s'obtient pas en ayant des visions extatiques, ne passe pas par des rites initiatiques. La vie éternelle consiste à connaître Dieu, mais pas n'importe comment. La vie éternelle consiste à connaître Dieu tel que Jésus le révèle. Et ça, c'est important. Tel que Jésus le révèle. Vous savez, les hommes ont beaucoup, beaucoup profité du fait que Dieu est invisible. Ils en ont profité pour laisser courir leur imagination. Vous connaissez peut-être cette petite expression en forme de boutade, l'homme fit Dieu à son image. C'est vrai, on entend aussi d'ailleurs souvent, encore aujourd'hui, hein, si Dieu existait, il ferait ceci, ou il ne permettrait pas cela. Mais de quel Dieu parlons-nous? De quel Dieu parlons-nous? Ah, le Dieu de votre imagination, oui, ben peut-être qu'effectivement, il n'existe pas. Mais le Dieu qui existe, c'est celui que Jésus prie. Et heureusement, comme Jean le dit d'ailleurs tout au début de cet évangile, personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé, ou nous l'a raconté. Rencontrer Dieu, c'est par Jésus-Christ, mais rencontrer Dieu en Jésus-Christ, c'est ça qui vous change. C'est ça qui nous a changé. Dans cette prière, Jésus constate l'œuvre accomplie dans le cœur des 11. Ils sont plus que 11 à ce moment-là, vous savez, Judas est déjà sorti. Je vous résume ce qu'il dit. J'ai rassemblé les bribes qui parlent de ce qui s'est déjà passé dans la vie de ces hommes. Ils ont gardé ta parole. Ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ils ont reçu le message transmis. Ils ont reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi. Ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Alors, vous gardez ça en tête, et puis vous vous rappelez comment étaient ces 11 hommes ce soir-là. C'est un bilan étonnamment positif que Jésus fait quand on pense à comment ils étaient, les 11 dans la chambre haute. Pardon. C'était des hommes déboussolés, craintifs, aveuglés, pardon. Mais peut-être que quelqu'un me cherche un verre d'eau. J'ai attrapé un chat dans la gorge. Des hommes tellement troublés qu'ils étaient prêts à abandonner leur maître. C'est que quelques heures après, ils sont tous partis. Ils ont couru dans tous les sens pour ne pas être arrêtés. Et c'est de ces hommes-là que Jésus dit ces choses. C'est la vision du maître. Sans doute qu'ils étaient effectivement comme je viens de les décrire. Mais Jésus ne les compare pas à ceux qui seront plus tard dans la puissance de l'Esprit. Il les compare à ceux qu'ils étaient avant de le rencontrer, quand ils étaient comme le reste des hommes, comme le monde. Et c'est en faisant cette comparaison, c'est ce qui lui permet donc de constater qu'il y a énormément de choses qui se sont déjà passées dans leur cœur. Il y a énormément de travail qui a été fait. Déjà, ils ont une nouvelle vision de Dieu qu'ils ont reçue à travers Jésus. Merci beaucoup. Déjà, leur vie a été réorientée par le fait de marcher avec Jésus pendant ces 3 années. Est-ce que il nous arrive de nous arrêter pour rendre grâce de tout le chemin que le Seigneur nous a déjà fait parcourir depuis le jour où nous l'avons rencontré? Ces hommes ne sont pas encore, on pourrait dire, au bout du cheminement, puisqu'il y a encore la croix, il leur manque encore la compréhension de la mort de Jésus, de sa résurrection, mais il y a déjà énormément de choses qui se sont passées. Nous, nous sommes plus loin sur le chemin, on pourrait dire, puisque nous savons pourquoi le Fils de Dieu est mort, pourquoi il a dû passer par là, pourquoi aussi il est ressuscité. Mais le Seigneur a déjà fait tellement de choses pour nous et en nous. Nous devons être reconnaissants. Le Seigneur, notre Dieu, est le Père qui sauve, qui nous a sauvés, qui continue aussi à faire cette œuvre de salut dans nos cœurs. La deuxième chose, c'est que Jésus prie celui qui est le Père, qui garde. C'est au verset 11 qu'il demande à Dieu de garder ses disciples. Et cette requête qu'il présente découle évidemment directement de son départ imminent. Il va devoir les quitter. Départ qu'il leur a expliqué comme étant nécessaire et inévitable aussi. Et là, je dirais que le Seigneur Jésus semble faire encore preuve d'un optimisme surprenant quand il dit, en regardant ces hommes, « Ma gloire rayonne en eux ». Alors, ce sont les mêmes, les mêmes qui disaient « Mais Seigneur, tu vas où? Tu vas comment? C'est quoi le chemin ?» etc. On ne comprend rien. « Ma gloire rayonne en eux ». Alors, encore une fois, Seigneur, il a une vision des choses qui nous surprend et nous devons nous laisser surprendre. Quand nous regardons autour de nous dans l'église locale à laquelle nous appartenons, est-ce que nous pouvons dire « Sa gloire rayonne en eux » Regardez autour de vous. « Sa gloire rayonne en eux » C'est un aspect de la réalité que nous avons besoin aussi de saisir. Que le Seigneur nous aide à voir nos frères et sœurs comme il les voit. Et cette gloire qu'il a mise, lui, qui a mise dans notre vie, nous devons aussi la reconnaître dans les autres. Certes, son regard bienveillant discerne aussi très nettement la faiblesse et le besoin de ceux qu'il a appelés. C'est pour cela d'ailleurs qu'il demande au Père, « Mais garde-les, Père, garde-les !» Le rapprochement entre la gloire et la vulnérabilité ici me rappelle ces paroles de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 4, 7, quand il écrit « Mais ce trésor, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes. » Ce trésor, cette gloire, nous portons ce trésor dans les vases faits d'argile que nous sommes. Alors, là, comme souvent dans la vie chrétienne, il y a un équilibre à garder. Nous ne devons ni nous focaliser sur les vases de terre au point d'oublier la gloire que le Seigneur a versée en nous, ni nous laisser éblouir par la gloire au point d'oublier notre fragilité humaine. Donc, restons équilibrés. Père Saint, garde-les en ton nom. Garde-les en ton nom. Alors, si vous lisez dans la Bible du Semeur, comme j'ai lu ce matin, vous remarquerez que j'ai fait un petit changement ici, parce que je pense que c'est plus clair que par le pouvoir de ton nom, et c'est plus proche de ce que Jésus a dit. Père, garde-les en ton nom. Et le nom ici a le sens du caractère de Dieu, tout ce qu'il est. Et il me semble que c'est pratiquement synonyme ici, le nom est synonyme de vérité. Garde-les dans la vérité de ce que tu es. Garde ces hommes, garde ceux que tu m'as donnés dans la vérité de ce que tu es. D'ailleurs, le fait qu'il commence par Père Saint me semble aussi militer dans ce sens. La découverte de Dieu comme Père ne doit jamais nous faire oublier sa sainteté. Pas toujours facile de tenir ensemble Père et Saint. Et pourtant, c'est comme cela que Jésus nous le présente et le prie. Père Saint, garde-les dans la vérité de ce que tu es. Je pense que Jésus met ici le doigt sur un des plus grands dangers qui guette ses disciples. C'est le danger de voir notre vision du Père se déformer ou se détériorer. Et vous remarquerez que dans le texte, Jésus ne prie pas pour que toute épreuve soit épargnée à ceux qui le suivent. Ce n'est pas ce qu'il demande. Garde-les, ce n'est pas épargne-leur toute difficulté. Mais nous devons comprendre la requête de Jésus comme étant plutôt une demande qu'aucune tribulation, qu'aucune difficulté ne vienne altérer notre vision de Dieu comme Père. Comme Père saint, comme Père souverain et comme Père aimant. C'est souvent les moments difficiles de la vie qui peuvent, je dirais, tordre notre vision de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il permet que je passe par là? S'il était vraiment ce Père aimant, est-ce que, vous connaissez ces questions, ce questionnement qui est une tentation aussi, le Seigneur Jésus demande au Père de nous garder et de garder notre cœur dans la vision vraie de ce qu'il est, surtout dans les moments de tribulation. Ensuite, dans la dernière partie de ce que je vous ai déjà lu, on a aussi le fait qu'une vision claire et juste de Dieu est essentielle à l'unité des disciples. Si nous allons rester unis, pour que nous ayons tous une vision claire et juste de Dieu. Cette unité que Jésus demande au Père, au verset 11, et à laquelle il reviendra plus tard, donc on lira ça dans un instant, cette unité s'appuie d'abord sur la vérité. Toute tentative de promouvoir l'unité, mais qui déforme en même temps ou qui affaiblit la vérité, la vision du Père communiquée par le Fils, est une tentative suspecte et dangereuse. Sacrifier la vérité pour prix de l'unité est une hérésie. Pour être et rester un, comme le Fils et le Père, les disciples doivent être gardés dans une fidélité sans faille à la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Et la réponse à cette prière de Jésus, je dirais, est dans le ministère du Saint-Esprit au milieu de nous. C'est lui qui conduit dans la vérité tout entière. C'est lui qui nous ramène quand notre vision commence à glisser ou à se déformer. C'est le Saint-Esprit qui, par la parole et la communauté, nous ramène à la vérité, à ce que Dieu est vraiment. C'est lui qui corrige nos dérives et qui nous ramène à Dieu tel qu'il est. Nous sommes gardés. Jésus a prié. Le Père exauce la prière. Laissons-nous garder aussi par le Père et par cette action de l'Esprit dans la maison de Dieu. Je continue la lecture au verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas comme moi-même je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde comme moi-même je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme moi je suis en toi, qui soit en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'aimes. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi, là où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux, et je continuerai à te faire connaître, pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux, et que moi-même je sois en eux. Le Père qui sauve, le Père qui garde, est aussi le Père qui consacre. Recevoir la parole, c'est s'exposer à l'hostilité du monde. Car le monde ne peut admettre d'autre lumière que la sienne. Et aujourd'hui, nous vivons dans une société qui refuse l'idée même de révélation. Non, mais vous n'y pensez pas. Ce qui existe, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut découvrir, hein, ce soit avec des télescopes ou avec tous les instruments de la science, hein, c'est ce que la science peut décrire. Nous avons reçu une révélation. Et recevoir cette révélation de Dieu que Jésus apporte, que Jésus incarne, cela vous distingue. J'ai envie de dire, ça vous transforme en poil à gratter pour le monde. Eh oui, forcément, il y a quelque chose qui irrite aussi dans le fait qu'on dise « Dieu s'est révélé en Jésus-Christ, nous l'avons rencontré par Jésus ». Les ténèbres détestent instinctivement la lumière véritable. Donc il y a forcément une hostilité. Il y a une tension inévitable entre les disciples du crucifié et le monde incrédule. Alors, c'est vrai, cette tension n'exclut pas, bien sûr, des relations, on va dire, normales, de travail, de voisinage, hein, avec ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Mais cette tension fait que nous sommes souvent mal à l'aise avec la mentalité de notre monde. Nous ne devrions pas nous en étonner. Et j'ai envie de dire, nous ne devrions pas vouloir y échapper non plus. Jésus évoque dans sa prière des solutions possibles à cette tension, mais qu'il exclut. Le Père aurait pu enlever les disciples du monde. Mais Jésus dit, non, Père, ce n'est pas ça que je veux. Ce n'est pas ça que je demande. Car Jésus savait très bien quel rôle les chrétiens avaient à jouer dans la dissémination de la bonne nouvelle dans le monde. Nous ne pouvons pas encore être retirés du monde. Car nous sommes destinés à être envoyés vers le monde. Il y avait une autre solution possible à cette tension, à ce climat de tension. Ça serait que les chrétiens se fondent dans la masse et qu'ils fassent comme les autres. Puis on n'en parle plus. Et le Seigneur souligne que ce n'est pas ça non plus qu'il demande. Car sa prière, c'est que ses disciples soient préservés du mauvais. Préservé du tentateur qui n'a de cesse de brouiller les pistes, de nier le caractère unique de la vie nouvelle que nous avons reçue en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes destinés à vivre sous tension. Est-ce que nous l'avons accepté? Nous sommes destinés à vivre sous tension. Pour supporter cette tension inhérente à notre vocation, nous avons besoin de savoir que nous n'appartenons plus au monde. nous n'appartenons plus au monde comme Jésus lui-même ne lui appartient pas. Et le mauvais, le diable, va constamment insinuer le contraire. Il fera tout pour affaiblir notre conviction que Dieu nous a consacrés pour lui-même, qui nous a mis à part, comme on dit souvent, qui nous a distingués. C'est pour cela que Jésus prie. Consacre-les, Père, par la vérité. Ta parole est la vérité. Jésus prie, le Père exauce, et cette prière est exaucée encore et encore, chaque fois que nous nous exposons honnêtement à la parole. Chaque fois que nous ouvrons notre Bible, simplement pour lire, ou alors pour méditer, chaque fois que nous écoutons l'annonce de la parole de Dieu à l'Église, que nous participons à un groupe d'études bibliques, que nous partageons la parole avec un frère, une sœur, un à un, le Seigneur, le Père, continue à exaucer la prière du Fils. Mais chaque vérité reçue de la parole, assimilée dans notre vie, nous met encore à part et nous distingue du monde qui ne croit pas. Et chaque vérité reçue et assimilée renouvelle notre témoignage. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous n'avons de témoignage réel que dans la mesure où notre rencontre avec Jésus nous change, nous a changé et continue à nous changer, à changer notre façon d'envisager la vie, de comprendre la vie, de vivre, bien sûr, notre vie. C'est ce que Jésus demande au Père, consacre-les pour qu'ils ne soient pas comme les autres et pour que les autres se demandent pourquoi. Que le Seigneur continue son travail de sanctification. C'est la même idée. Le Père qui consacre, qui sanctifie, qui nous différencie du monde, pour ensuite nous envoyer vers ceux qui ne l'ont pas encore accueilli. Consacre-les par la vérité. C'est suivi juste après par cette expression « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi ». Je les y envoie. Seigneur ne nous consacre pas, ne nous sanctifie pas juste pour notre plaisir, mais pour nous donner un témoignage qui touchera ceux qui ne le connaissent pas encore. Si vous voulez, nous ne sommes pas mis à part pour être des vedettes, mais pour être des témoins. Le Père nous consacre. Et puis on terminera brièvement avec le Père qui unit. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la partie du texte qui parle de l'unité. Simplement quelques pistes, quelques pensées que vous pouvez emporter avec vous pour méditer, pour réfléchir à cette question. La prière de Jésus n'est pas seulement que dans chaque génération, ceux qui se réclament de lui soient unis. Bon, il y a de ça. Mais il me semble qu'il demande également, et peut-être même principalement, que ceux qui croient en lui, grâce à la parole des premiers disciples, soient un avec ceux qui leur ont annoncé la bonne nouvelle. Un dans leur adhésion enthousiaste à la vision de Dieu révélée dans l'œuvre de Jésus, telle que les apôtres l'ont rapportée. Cette unité, donc, remonte dans le temps, on pourrait dire, pour se raccrocher à un témoignage qui a été apporté une fois pour toutes. Nous n'avons aucun moyen d'accéder à la vérité révélée en Jésus-Christ sans passer par les apôtres. Il n'y a aucun moyen de les court-circuiter. Ce sont eux, premièrement, que l'Esprit-Saint a conduit dans la vérité tout entière. pour qu'il la mette par écrit et pour que ses écrits nous soient transmis. C'est donc à travers leur témoignage dans les pages du Nouveau Testament que le même Esprit nous conduit et nous instruit dans toute la vérité. Aujourd'hui, quand notre pensée et surtout notre foi s'alignent sur l'enseignement des apôtres, le premier volet de la prière de Jésus pour l'unité trouve déjà son exaucement. Il y a là quelque chose de profondément important. Que notre foi soit fondée sur le témoignage des apôtres. Jésus appuie sa demande, sa prière pour l'unité sur un exemple, celui de la communion entre lui et son Père. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, qu'il soit en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Avoir une même communion entre nous que celle qui existe entre le Père et le Fils, ça me dépasse de loin. Comment ? Et pourtant, c'est cet exemple que le Seigneur prend, que Jésus utilise dans sa prière. Le Seigneur parle évidemment d'une communion entre des hommes et des femmes qui n'est possible que pour ceux qui sont déjà en communion avec le Père et le Fils. Et je trouve qu'il est tentant de voir dans cette requête de Jésus qui demande, Père, qu'il soit en nous, peut-être une allusion à quelque chose qu'il a dit juste avant, dans le chapitre 15, quand il a parlé de la vigne. Rappelant que notre vie et notre fruit, et je crois que l'unité fait partie du fruit que nous sommes appelés à porter, que notre vie et notre fruit dépendent de notre attachement à Jésus. Il n'y aura pas de vraie communion entre nous si notre communion avec le Père et avec le Fils n'est pas une communion vraie. Mais ce qui est intéressant encore à souligner ici, c'est que cette communion et cette unité doit se faire dans un but missionnaire. Dans un but missionnaire, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Vous savez, l'unité est souvent devenue, au cours de l'histoire de l'Église, un but en soi. On a couru après l'unité, mais on a oublié pourquoi le Seigneur veut nous unir. Il veut nous unir pour nous envoyer et pour que le monde croie qu'il a été envoyé pour apporter le salut à tous ceux qui croient. Jésus met l'accent sur la mission. Et il souligne l'importance pour les vrais chrétiens d'être unis pour annoncer la bonne nouvelle au monde. C'était déjà à l'époque une tâche immense, ça reste une tâche urgente. Et c'est une tâche qui doit rester prioritaire pour les disciples de Jésus-Christ. Le Père nous unit dans une communauté qui doit être missionnaire. Qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour moi? Jésus nous dévoile le Père qui a conçu un plan de salut, qu'il a mis en œuvre à travers les siècles pour aboutir à la croix, à la résurrection, à l'accomplissement de toutes ses promesses en Jésus-Christ, le Père qui sauve. Dans cette prière, nous découvrons aussi le Père qui garde, le Père qui est là. Hein. Tout à l'heure, on a parlé de l'ombre, hein. Celui qui nous accompagne, qui veille sur les départs, sur les arrivées, celui qui garde, qui veut continuer à nous garder dans sa vérité. Il est aussi ce Père qui nous distingue, qui nous met à part, qui nous consacre pour lui-même, qui ne veut pas nous voir nous fondre dans la masse, qui veut que nous soyons visibles. Alors, c'est vrai que plus nous sommes visibles, plus nous attirons l'hostilité du monde. Alors, c'est pas facile toujours à vivre. Mais le Seigneur veut nous donner la grâce pour le faire. Et il est aussi donc celui qui nous unit sur le socle de ce qu'il a donné dans sa parole, à travers ses apôtres, qu'il avait préparé et choisi pour cela. Le Seigneur qui nous unit aussi pour ensuite nous envoyer avec un témoignage qui tient la route, un témoignage qui va toucher des cœurs. Il nous unit dans une communauté missionnaire. Quel privilège d'être au bénéfice de son amour agissant. Quel privilège d'avoir un Père qui encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, continue à exaucer la prière du Fils pour ceux qui croient en lui. Et quelle joie aussi de savoir que la cinquième requête de Jésus, dont je n'ai pas parlé, mais qui est dans le verset 24, la cinquième requête de Jésus sera aussi exaucée pour que nous soyons pour toujours là où il est, pour contempler sa gloire. Ça, c'est l'espérance qui nous tire et qui doit nous faire avancer. Que le Seigneur bénisse sa parole pour tous nos vies. Prions. Père, nous voulons te louer et t'adorer ce matin encore comme celui qui a conçu ce plan de salut qui a été mis en œuvre à travers toute l'histoire depuis l'appel d'Abraham, à travers l'histoire d'Israël, la sortie d'Égypte, le choix de David, les paroles des prophètes, jusqu'à ce jour où ton Fils est venu dans le monde, est devenu un homme qui a marché parmi les humains, qui a vécu cette vie que nous sommes incapables de vivre, qui a offert cette vie en sacrifice pour les péchés. Merci, Père, pour tout ce que tu as mis en œuvre, pour notre salut. Et chacun peut dire pour mon salut. Seigneur, merci d'être venu nous chercher et d'avoir ouvert nos yeux pour voir en Jésus-Christ crucifié et ressuscité notre seul espoir. Merci parce que, Père, tu es aussi celui qui a gardé les apôtres, même si dans cette nuit où Jésus fut livré, ils ont été dispersés, tu les as rassemblés de nouveau. Tu les as lancés dans le monde, remplis de ton esprit, pour faire connaître la vérité. Merci, Seigneur, de nous garder aussi dans la vérité de ce que tu es. Ô Seigneur, ne permets pas que notre vision de toi, cette vision reçue par Jésus-Christ, soit diminuée, déformée, obscurcie par quoi que ce soit. Et garde-nous particulièrement, Seigneur, dans les jours difficiles. Garde-nous de laisser notre vision de toi s'obscurcir pour oublier qui tu es. Et Seigneur, merci, parce que tu nous as aussi mis à part pour toi. Tu as voulu nous distinguer des autres pour que nous portions en nous cette gloire que tu veux faire rayonner. Seigneur, nous nous sentons tout petits devant cette tâche. Nous sommes beaucoup plus, peut-être plus à l'aise avec cette vision de vase de terre qu'avec cette vision de la gloire, le trésor que tu as mis dans nos cœurs. Mais Seigneur, permets que le trésor brille à travers la vase de terre, le vase de terre. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui le fais. C'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui nous as sauvés, c'est toi qui nous as consacrés pour toi. Alors sois glorifié en nous. Et merci de nous unir dans ce même but, de te faire connaître. De te faire connaître, non pas comme les hommes voudraient que tu sois, Seigneur, mais comme tu es vraiment. Et comme tu t'es révélé devant ton Fils, Jésus. Merci aussi, Seigneur, de nous rappeler ce matin que le jour viendra où nous serons aussi dans ta présence pour contempler la gloire du Fils, celle que tu lui avais donnée dès avant la fondation du monde, celle qu'il a mise de côté pour devenir notre Sauveur, celle qu'il a retrouvée auprès de toi, Père. Merci, parce que c'est notre espérance. Merci, parce que cette prière-là sera aussi exaucée. Nous te louons, Père, car tu nous permets de nous accrocher vraiment à ce que tu es et de renouveler chaque jour notre foi en nous rappelant déjà tout le chemin que tu nous as fait parcourir. Alors béni sois-tu, Père, et que chacun dans son cœur puisse aussi te bénir pour tout ce que tu nous as déjà fait vivre avec toi. Et nous te bénissons tous ensemble pour ce qui nous reste aussi à découvrir dans les jours à venir, avec toi, par ta grâce. Nous n'avons pas encore saisi même la moitié de ce que tu veux nous faire comprendre, de ce que tu es, de ce que tu veux être, Seigneur. Alors, continue à ouvrir nos cœurs, à ouvrir nos yeux et à nous éblouir par ta beauté et par ta gloire. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.